Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau numéro de Wagon Livre, une émission enregistrée en public à la librairie L'Autre Monde, 42 Grande Rue. Je remercie, comme à l'accoutumée, nos deux libraires partenaires, Carole Amicel et Evelyne Levallois. Bonsoir chère Evelyne et merci à toi toujours de non seulement de nous accueillir, mais aussi de nous régaler de ton coup de cœur, car tu auras un petit coup de cœur en fin d'émission.
Oui, tout à fait. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Evelyne. Et puis, effectivement, le moment est venu de présenter les deux invités. Cette année, la maison d'édition Rhubarbe fête ses 10 ans. Et effectivement, on ne pouvait pas passer à côté d'un tel événement. Dans Wagon Livre sur Radio, on le connaît tout de même un peu. Il est auxerrois, professeur documentaliste. Alain Quévès, bonsoir.
Bonsoir Yannick.
Alain, je te tutoierai hein, tout au long de l'émission parce que vous voyez quelqu'un que l'on connaît depuis moult années, ça me semble un peu difficile.
Ça marche.
Tu n'es pas venu seul, tu es venu accompagné d'un de tes auteurs, couronné du prix Bocas pour un recueil de nouvelles que tu as fait paraître, je crois, au mois de novembre 2013.
C'est ça.
Recueil de nouvelles qui a pour titre Le Grand Labeur et il s'agit donc d'accueillir devant nos micros Jean-Pierre Canet. Bonsoir Jean-Pierre Canet.
Bonsoir.
Merci à vous et merci à vous le public. Alain Quévès, on va présenter le créateur de cette maison d'édition installée à Auxerre, maison d'édition donc Rhubarbe, qui a vu le jour en décembre 2004, très précisément. C'est bien cela ?
Oui, on peut dire ça.
Alors Alain, tu es né en 1958 à Forbach, en Moselle, père allemand, mère lorraine.
De fraîche date, oui, c'est-à-dire qu'à quelques années près, ça pouvait être l'inverse.
Tu as appris à écrire avec un écrivain.
Ah oui, j'ai eu comme instituteur au cours préparatoire quelqu'un qui était à l'époque évidemment instituteur et qui s'appelait déjà, mais personne ne le savait, Roger Bichelberger, qui est ensuite devenu un écrivain très, très prolifique et très connu, très reconnu, chez Albin Michel en particulier.
Alors, il faut dire, Alain, que tu as une caractéristique, c'est l'empilement de casquettes. Alors, on te connaît bien sûr comme le créateur des éditions Rhubarbe, tu es toi-même écrivain. Il faut dire qu'Alain Quévès a obtenu en 1997 un prix littéraire extrêmement prestigieux, prix littéraire qui n'existe plus depuis plus d'un an, me semble-t-il.
Depuis deux ans, effectivement, il a disparu.
Tu as obtenu ce qui aurait pu être presque une sorte de Goncourt de la nouvelle, le prix Prométhée de la nouvelle en 1997 pour un texte, un recueil de nouvelles qui avait pour titre « Le geste manqué de l'amant ».
Oui, alors la différence avec le prix Goncourt, outre évidemment la notoriété, c'est que le prix Goncourt, y compris le prix Goncourt de la nouvelle, est attribué à un ouvrage déjà publié, alors que le prix Prométhée était attribué sur manuscrit. Et la publication, donc, aux éditions du Rocher, était la résultante, la conséquence du prix.
Alors Alain Quévès, écrivain, critique littéraire, notamment pour la revue de poésie Décharge, qu'anime depuis un quart de siècle maintenant.
Même plus, oui.
30 ans.
30 ans, oui.
Jacques Morin, Jacques Maud. Lecteur public,
oui.
Dans le cadre de l'association
La Soie des Verts.
La Soie des Verts. Et en fait, Alain, dans ton enfance, tu dis que tu as été entouré, il y avait assez peu de livres autour de toi dans ton enfance.
Oui, bon, ça n'est pas forcément très, très original. J'ai eu une enfance heureuse, mais il se trouve qu'il n'y avait pas énormément d'ouvrages. En revanche, ceux qui se trouvaient sur les étagères du salon, j'ai passé mon temps à les feuilleter, à les caresser, à les regarder, pas tout de suite à les lire parce qu'ils étaient pour la plupart écrits en allemand. Donc il y avait une quinzaine d'ouvrages dont je me faisais tout un monde des aventures qu'ils contenaient. Bon, après, j'en ai lu certains qui valent ce qu'ils valent. Hein. Il y avait La Mousson de Bromfield et quelques autres comme cela. Mais je crois que le fait qu'il y ait eu peu d'ouvrages à la maison donnait plus d'importance à ceux qui y étaient.
Venons-en si tu le veux bien, à cette maison d'édition à Rhubarbe. Déjà, le choix du nom, Rhubarbe, alors c'est en partie expliqué dans chacun des ouvrages parus aux éditions Rhubarbe, puisqu'il y a ce petit rappel lexical. Je te laisse le soin de le lire, d'ailleurs, Alain, s'il te plaît.
Je vais le lire, oui. Rhubarbe, nom féminin du bas latin Reo Barbarum, racine barbare. Feuilles monstrueuses, tiges acides, le potager littéraire connaît bien ces textes inclassables, sauvages, qui s'imposent à leurs auteurs. On peut les couper à ras, ils repoussent. Autant les donner à lire. Donc ce petit message qui effectivement est au début de chacun de mes ouvrages, pour dire un petit peu ce qui était à l'origine l'ambition éditoriale de ce qui allait devenir Rhubarbe, parce qu'au début, une maison d'édition n'existe pas, elle existe à partir du deuxième, voire du troisième titre publié. C'était de donner vie, en fait, à quelque chose de sauvage, d'involontaire, de nécessaire. Un texte qui surgit dans l'œuvre d'un auteur qui peut être, par exemple, déjà très connu, mais qui détonne dans son parcours, par sa forme, par son contenu, par sa thématique, et voilà, qui s'est imposé dans une vie, dans une œuvre.
Jean-Pierre Canet, vous vous souvenez de quelle manière vous avez découvert les éditions Rhubarbe ?
Oui, absolument. Moi, je suis installé en région, c'est-à-dire à Vézelay, et je suis curieux de nature, et je constate que Georges-Olivier Château-Renaud, que j'ai souvent croisé, que Christiane Baroche, qu'on appelait la papesse de la nouvelle à une certaine époque, que Michel Ost, prix Goncourt, que Guylain Ripaud, qui était un copain, qu'Elisabeth Carpentier, je vais pas les énumérer tous. Je veux dire, quand je considère le catalogue de cette jeune maison d'édition, je me dis, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, d'assez extraordinaire. Et c'est très naturellement que j'ai proposé mes textes à Alain Kewes.
Alors, je dois vous présenter un peu Jean-Pierre Canet, effectivement. Bon, d'Alain Kewes, j'ai presque tout dit. J'ai peut-être oublié de signaler qu'il était professeur documentaliste au lycée Vauban à Auxerre. Vous, Jean-Pierre Canet, vous vivez entre Paris et Vézelay. C'est bien cela.
C'était le cas.
C'est plus le cas, non?
Moins.
Alors, moins à Paris et plus à Vézelay ou l'inverse?
Plus à Vézelay.
Vous êtes auteur de poésie, de romans parus chez Julliard et Gallimard. En 1993, chez Gallimard, vous faites paraître un roman qui a pour titre « Les vents coudés ». Et en 1998, chez Julliard, vous êtes l'auteur d'un roman intitulé « Saint-Ploc le Gitan ».
Tout à fait.
Vous êtes aussi un créateur de théâtre, vous êtes un homme de théâtre, avant tout.
Je ne sais pas
enfin,
si
avant
c'est...
tout, je non, dis avant
je,
tout.
Je ne saurais pas le dire à mon propos. D'abord, je ne sais pas... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la langue. Ce qui m'intéresse, c'est ce vecteur étonnant. C'est d'essayer d'articuler par des mots les pensées les plus profondes, parfois les fantasmes, parfois les accidents, parfois les choses oniriques, parfois le réel, voire l'ultra-réel, si tant est qu'il existe. Et c'est vrai que dans mon parcours, j'ai utilisé des médiums différents. La dramaturgie, c'est-à-dire la chose théâtrale, si vous voulez, est venue pour plein de raisons. Je ne sais pas si je réponds à votre question, là, Yannick, parce qu'on parlait de théâtre. En fait, j'ai toujours souhaité que les vivants et les morts puissent se parler en équité. Et il me semblait que le théâtre était un vecteur idéal pour ce faire. S'ajoute à cela le fait, qui est quand même un fait majeur, c'est-à-dire l'équipe théâtrale. Rompre la solitude de l'auteur. Vous imaginez une première au théâtre, vous êtes dans la salle, caché dans l'ombre, et vous allez écouter, voir et essayer de profiter comme les autres. c'est quand même assez extraordinaire. Je dois, avant de peut-être vous laisser poursuivre votre débat, insister sur le fait que mon éditeur essentiel de théâtre, qui s'appelle Le Théâtral, considère mon travail comme un travail de, je crois qu'ils disent, récit théâtral. C'est-à-dire que je suis dans un théâtre, je crois, très écrit. Je ne crois pas du tout dans le ping-pong des mots. C'est-à-dire que le théâtre n'a jamais été pour moi la vie réelle. C'est une sorte, comment dire ça, d'intensité des choses, de rétractation de la vie. Mais ce ne sont certainement pas des micros posés sous les tables.
En tout cas, l'intensité des choses, on l'aperçoit dans votre recueil, Le Grand Labeur, que Alain Quévès a fait paraître en novembre de l'an dernier. On y reviendra, on va marquer une première pause musicale. On écoute Judith qui nous interprète Le Bon Vent et on se retrouve dans une poignée de minutes avec nos invités, donc l'éditeur, écrivain, professeur documentaliste Alain Quévès, le créateur de la maison d'édition Rhubarbe. Nous sommes aussi accompagnés du prix Bocas 2014. Tout auréolé, tout couronné, c'est Jean-Pierre Canet, l'auteur donc du Grand Labeur, recueil aux nouvelles disponibles chez Rhubarbe. Et bien sûr, nous sommes avec Evelyne Levallois, notre amie libraire, et avec le public qui nous supporte.
Bon vent viendra chasser les mauvais tours, les printemps viendront balayer les mauvais jours. Je sais bien qu'il y a pire et qu'il y a mieux que moi, mais au-delà de nos soupirs et bien au-delà, c'est bien peu de le dire. Oui, mais moi j'y crois. Je demande à ton sourire de se tenir près, car le bon vent viendra chasser les mauvais tours. Les printemps viendront balayer les mauvais jours.
Retour à bord de Wagon Livre pour un numéro consacré aux 10 ans de la maison d'édition Rhubarbe. Son créateur est devant notre micro, Alain Quévès. Il est venu accompagné de Jean-Pierre Canet, auteur du Grand Labeur, recueil de nouvelles qui a publié chez Rhubarbe, bien sûr, et qui a reçu le prix Bocas cette année. Alain, Les éditions Rhubarbe, la rhubarbe, ce sont ces feuilles monstrueuses derrière lesquelles l'éditeur se cache pour mettre en valeur, mettre en avant ses auteurs. Jean-Pierre Canet parlait effectivement du souci de l'équipe lorsqu'on veut monter un spectacle de théâtre, ne pas être seul. Tu n'es pas seul, Alain, parce que finalement, depuis 2004, tu as publié une centaine d'ouvrages. Ça veut dire une centaine d'auteurs.
Non, 70 à peu près, parce que la logique de l'édition, c'est aussi de pouvoir, le cas échéant, et puis si les choses se passent bien, on fait tout pour, fidéliser un auteur, c'est-à-dire publier un deuxième, un troisième, un quatrième titre du même auteur. Donc il y a plus de livres que d'auteurs. Oui, effectivement, l'édition, c'est une façon aussi de rompre cette solitude, ce face-à-face de l'auteur avec son écriture, avec son imaginaire. Je ne parle pas de page blanche, parce que ça, c'est un tout autre problème. Mais un auteur est toujours aux prises avec ses propres démons et ses propres féeries aussi, ses propres éblouissements. Moi, j'avais envie de m'entourer des démons, des féeries, des éblouissements, des autres aussi.
Alors, il faut dire aussi, Alain Quévez, les éditions Rhubarbe font paraître surtout des nouvelles. C'est surtout du texte court.
Du texte court, mais pas uniquement des nouvelles. Dès le départ, puisque le premier livre paru était une nouvelle, le deuxième était déjà un recueil de poésie. Donc, dès le départ... j'ai voulu publier des textes courts parce que tout simplement il n'y avait pas à l'époque en France de véritables moyens pour ces textes brefs de sortir. Alors pour la poésie, si, bien sûr, il y a beaucoup d'éditeurs de poésie de grande qualité. Mon premier recueil de poésie faisait 27 pages. Et un livre court, ça, c'était plus difficile. Plus particulièrement, évidemment, dans la nouvelle que dans la poésie. Parce que les plaquettes de poésie, c'est historiquement quelque chose qui a toujours existé et toujours prospéré, heureusement. Mais je ne suis pas éditeur de nouvelles, je suis éditeur de textes courts. Avec des exceptions, parce que finalement, dans la vie, les exceptions font le sel des choses. Donc j'ai publié quelques romans, quelques gros livres, mais on va dire que l'essentiel, oui, ce sont des textes courts.
Quel est l'auteur le plus représenté chez Rhubarbe? Quel est celui qui a le plus de livres à son actif?
Alain Quévez?
Non, je ne suis pas chez Rhubarbe, moi, enfin j'y suis par accident une fois. Alors numériquement, l'auteur le plus représenté, c'est je crois Michel Baglin, qui a publié 5 ouvrages chez moi, mais il est suivi de près par Jacques-François Piquet, par exemple, et quelques autres. Maintenant, cette notion de nombre de livres paru n'est pas forcément pertinente parce que c'est aussi un hasard d'écriture, un choix de direction que les auteurs suivent. Quand ce sont des romanciers qui publient à l'occasion des textes courts, eh bien ils vont pas forcément me proposer tout de suite après un roman, et d'ailleurs je serais amené peut-être à le refuser puisque ça n'est pas mon support préférentiel.
Il faut bien rappeler que l'éditeur, en fait, exerce un rôle de filtre. C'est cruel, mais tout le monde ne peut pas être édité.
Ben, c'est la définition même de l'éditeur. L'éditeur, c'est celui qui dit non. Hein. Tout le monde peut publier, mais l'éditeur, c'est celui qui empêche certains livres de paraître.
Chez Rhubarbe, celui qui dit non, c'est Alain Quévez tout seul. Oui. Tu es ton propre comité de lecture.
Je suis mon propre comité de lecture, mon coursier, mon livreur, mon représentant, je suis tout.
Alors par exemple, on peut être un animateur célèbre de France Culture et se voir refuser un texte chez Rhubarbe.
C'est arrivé.
Je le sais, c'est la raison pour laquelle je te pose.
C'est arrivé, oui. Non mais, évidemment, on a beau se retrancher derrière une attitude... puriste en disant je lis un texte et je m'abstrais de la notoriété de l'auteur. Maintenant, si un auteur comme tu dis, qui a pignon sur rue, qui a une certaine célébrité, c'est peut-être aussi parce qu'il a un certain talent. Donc, bon, mais c'est arrivé effectivement que je refuse des manuscrits, même assez souvent, de personnes qui n'auraient pas demandé mieux que d'être publiées chez moi. Bon, après, ça n'est pas forcément non plus parce que leur texte n'était pas bon, évidemment. D'abord, quelle autorité ai-je, moi, pour juger de la qualité d'un texte ? Je n'ai que ma propre perception, ma sensibilité, ma sensation. Le texte me parle, me convient à ce que je souhaite faire paraître ou pas. Et si c'est ou pas, ça ne veut pas dire pour autant que le texte ne soit pas bon. C'est qu'il est peut-être bon pour être publié ailleurs, c'est tout. Ou peut-être que je me suis trompé. Je peux aussi me tromper et refuser un texte que j'aurais eu mille raisons de publier, ça peut arriver.
La renommée de Rhubarbe est désormais hexagonale ?
Oui, je dirais même international, puisque j'ai publié une bonne dizaine de livres d'auteurs belges. J'ai publié deux ouvrages de Louis Smithson, qui est chilien. J'ai publié un serbe. Mais oui, on va dire hexagonal.
Alors, il y a effectivement, et Jean-Pierre Canet les a mentionnés précédemment, il y a effectivement des auteurs très connus que tu as publiés. Je pense à ce Renaudot 82, Georges-Olivier Château-Renaud, Michel Aust, Prix Goncourt 86, je crois que c'était Valet de Nuit. Et puis il y a des habitués, je pense à Jean-Paul Rousseau, qui est un Auxerrois pur jus, Jacques Morin aussi, qui est un grand copain. Je veux dire, c'est un peu l'ombre d'Alain Quévès, Jacques Morin.
Je crois qu'il est beaucoup plus que l'ombre d'Alain Quévès. Non, on est dans deux univers totalement différents. Jacques est un passionné, un fou de poésie. Moi, je suis un amateur de poésie. D'abord, je n'en écris jamais. C'est une écriture que je ne possède pas. J'ai écrit des poèmes, mais je vous les épargnerai. Mais non, Jacques est un grand connaisseur de la poésie contemporaine. Par rapport aux auteurs que tu cites, chaque histoire est particulière, chaque rencontre est unique. S'agissant de Georges-Olivier, c'est un auteur qui fait partie de mon panthéon littéraire, c'est un auteur qui n'a pas, à mon avis, la notoriété qu'il mériterait, et pourtant elle est déjà grande, mais c'est un texte que j'ai sollicité, je lui ai demandé un texte. Michel Aust, donc, lui, c'est lui qui me l'a proposé, qui me l'a offert. D'autres m'ont envoyé un manuscrit par la poste et s'adressaient à un inconnu. C'est le cas de Werner Lambercy qui m'a envoyé un texte. « Cher monsieur, voilà, je vous envoie ce manuscrit. » Donc chaque histoire est particulière et ça n'est qu'après qu'on peut mettre côte à côte, Georges-Olivier Château-Renaud, à qui j'ai demandé un texte, Michel Aust qui me l'a proposé, et d'autres, et Jean-Paul Rousseau. Alors Jean-Paul Rousseau, il y a évidemment... le fait que je le connaissais par ailleurs et que je ne pense pas que la proximité géographique joue, parce que j'ai refusé beaucoup de textes d'auteurs iconais, auxerrois, j'en ai accepté d'autres. Je pense pas que ce critère-là joue. Maintenant, il se trouve que j'ai publié effectivement trois livres de Jean-Paul Rousseau. Quatre maintenant, puisqu'il y en a un qui vient de paraître, un petit livret.
Le petit dernier qui a pour titre L'Anima de Claire ou La Troisième Chance. On y reviendra, mais on va surtout revenir dans une poignée de minutes au grand labeur de Jean-Pierre Canet, ouvrage, donc recueil de nouvelles qui a obtenu le prix Bocas cette année. On marque une nouvelle pause musicale. C'est Natacha Saint-Pierre avec Bonne Nouvelle et Bonne Nouvelle, les éditions Rhubarbe. Faites leur 10 ans. On se retrouve dans quelques minutes avec donc Alain Quévès, créateur des éditions Rhubarbe, Jean-Pierre Canet pour son recueil de nouvelles Le Grand Labeur et notre fidèle libraire Evelyne Levallois et le public toujours avec nous.
Je tousse à chaque pause.
Voler aux jeux pommes, des regards où le temps s'arrête.
matin qu'il y aura des beaux parleurs et des fleurs pour les pardonner. Il y aura dans les hauts parleurs une femme pour fredonner.
Retour à bord de Wagon Livre en public, une émission enregistrée le 20 septembre dernier à la librairie L'Autre Monde, 42 Grande Rue. Le moment est venu de mettre en lumière le recueil de nouvelles de Jean-Pierre Canet qui a pour titre Le Grand Labeur. C'est un recueil qui a obtenu au mois de mai dernier le prix Bocasse. J'imagine que l'éditeur en est non seulement fier mais aussi heureux.
Doublement heureux, d'abord parce que j'ai eu le plaisir de recevoir ce manuscrit, j'ai eu le flair de l'accepter immédiatement et même de le faire passer sur le dessus de la pile parce que je sentais une espèce d'urgence à faire paraître ce texte. Et ensuite, évidemment, le prix Bocasse, qui est à l'heure actuelle l'un des trois grands prix consacrés à la nouvelle. Bah oui, ça fait toujours plaisir de voir ces goûts partagés et ces enthousiasmes de se voir donner une chance de rencontrer un lectorat peut-être un peu plus large. Mais c'est vrai que pour moi, publier cet ouvrage-là, c'était déjà un bonheur. Après que le prix Bocasse vienne le couronner, c'est une cerise pas négligeable.
Alors si on prend la nouvelle qui donne son titre au recueil, à savoir donc Le Grand Labeur, on est, Jean-Pierre Canet, dans cette nouvelle comme dans d'autres du même recueil, on est dans des univers extrêmement angoissants, des univers de guerre, apocalyptiques. Il y a d'ailleurs en exergue un propos, je suppose, pris d'un roman de Romain Gary, ça tombe bien, en fait, le centenaire de sa naissance cette année. Le propos est le suivant, paysage de catastrophe saisi sur le vif et frappé d'une sorte de perpétuité. Alors dans la nouvelle Le Grand Labeur, il s'agit d'un petit garçon de 13 ans, Joseph, qui est amoureux d'une jeune fille, jeune femme qui se prénomme Nina. On n'a aucun repère temporel. Tout ce que l'on sait, c'est qu'autour d'eux, il y a un décor apocalyptique, c'est la guerre. Et alors, il y a ce grand labeur qui consiste en fait à remorquer la mer. Et je me suis demandé si justement cette image de remorquer la mer, c'était pas aussi d'une certaine manière allégorique de ce qu'était le travail peut-être de l'éditeur qui remorque les auteurs, qui les amène à lui, ou le travail aussi de l'écrivain.
J'interviens, non, l'éditeur ne remorque pas les auteurs.
Hein. Il les remarque, il les remarque, mais
c'est
il
déjà
les remorque
pas mal. Oui, c'est déjà pas mal.
Alors, Jean-Pierre Canet. Pourquoi ces univers de guerre? Pourquoi ces univers de souffrance où là, le grotesque, le violent, ont une très très large part dans vos nouvelles? Il est des choses complètement surréalistes.
Le grand labeur, c'est d'abord une histoire d'amour. Mais les histoires d'amour, moi je n'ai jamais écrit de sitcom pour la sixième chaîne de télé. Donc je ne suis pas du tout dans cet univers-là. J'ai besoin de donner corps, que les situations soient incarnées dans toute leur âpreté, dans tout ce qu'elles ont de plus pris au vif. Et... Joseph est amoureux de Nina dans une situation, comme vous l'avez raconté, on ne sait pas bien où on se trouve. On ne sait pas bien où on se trouve parce que ce que je souhaite toujours, c'est essayer de, comment vous dire ça simplement, de chasser tout ce qui pourrait être anecdotique et toujours d'être en quête de quelque chose qui serait de l'ordre... Ça va paraître un peu prétentieux, mais d'essayer d'inventer des mythes modernes, de nouveaux mythes.
Et il y a des choses terribles quand même.
Mais ça, c'est... Moi, je crois que il y a aussi des étoiles. Je crois aussi qu'il y a des ciels lumineux là-dedans. Enfin, je l'espère. Et puis, sachez également, parce que je suis toujours frappé, moi, lors de rencontres, on pense que systématiquement qu'un auteur raconte sa propre existence. Et c'est quelque chose, moi, qui parfois me laisse sans voix. J'écris, et vous avez eu la gentillesse et l'obligeance de le citer tout à l'heure, j'écris un roman dans un milieu gitan, on va dire, pour aller très très vite. Et donc ce texte est lu en public, et à la fin de la lecture, il y a deux dames qui viennent me voir, et l'une dit à l'autre, dès que j'ai vu ce monsieur entrer, je savais qu'il était gitan. Vous me voyez, moi, né à Quimper, dans le Finistère. Et c'est extraordinaire. Et là, je dévie un peu, pardonnez-moi, parce que je ne sais plus où j'en suis. Alors
vous disiez que vous vouliez écrire des mythes modernes, oui. Et que finalement, il n'y avait pas de part autobiographique. Traquer, pas chercher l'autobiographique dans vos écrits.
Absolument pas, surtout pas. Moi, ma vie personnelle ne m'intéresse que très peu. Ce qui m'intéresse, ce sont les autres.
Alors, prenons le cas dans la nouvelle Margelle. Il y a un enfant qui s'appelle Fleurus, et sa mère met au monde un petit bébé bien fragile, et il y a un moment, alors cette femme n'a pas dégonflé, et elle demande à ce garçon de re-rentrer le bébé dans son ventre pour lui donner une chance de survivre, en quelque sorte. Et donc, notre Fleurus devient le sage homme. En fait, la mère réabsorbe son bébé, qui est en fait un prématuré. Parfois, on se dit « Waouh, ça surprend ». Quand j'ai lu votre recueil, puisque Alain Kévès me l'avait très gentiment envoyé, je l'ai lu tout de suite et j'avais dit à Alain que j'avais été époustouflé, j'avais été tout à fait admiratif. Mais il est des scènes qui surprennent. Et effectivement, le côté monstrueux rhubarbe, à mon avis, est tout à fait en phase avec ce que vous écrivez.
Vous savez, si vous interrogez les personnes nombreuses, dans la salle, si on parle de la maternité, si on parle des accouchements, si on parle de la naissance, vous allez entendre des histoires incroyables. Je parlais de mythes tout à l'heure et de légendes. Autour des naissances, on bâtit tous les mythes du monde. Vous voyez, par exemple, moi je suis né coiffé. C'est-à-dire avec une petite calotte de placenta sur la tête. Traditionnellement, on disait que les enfants nés coiffés, il y a d'ailleurs un très beau bouquin de Béatrice Beck qui s'appelle « Conte à l'enfant né coiffé », que ça portait chance. Moi, je suis d'une grande fratrie, nous sommes 8 enfants, et je veux dire, autour de chaque naissance, on a énormément raconté, on a énormément brodé d'histoires. Je suis aujourd'hui le père de 2 enfants, de 2 filles, à chaque fois que c'est leur anniversaire, bien évidemment, je les appelle, et qu'est-ce que je fais ? Je leur raconte leur naissance, sachant que la plus âgée a 27 ans aujourd'hui. Parce que justement, il faut élever la naissance, l'agrandir, la mythifier.
Alors, le mythe d'une part, la naissance d'autre part. Alors, il y a quelque chose de très oedipien. Je dis Oedipe parce que Oedipe, on connaît de quelle manière il est rejeté, abandonné, etc., dans le désert, condamné à une mort qui ne viendra pas. Je dis Oedipe parce que Oedipe, il s'aveugle à la fin de la tragédie pour ne pas voir l'horreur du désastre qu'il a créé autour de lui. Or, il est beaucoup question du thème de l'aveuglement dans vos nouvelles. Il y a beaucoup de personnages aveugles. Et vous, justement, je me disais, l'auteur, c'est celui qui voit, ou qui en tout cas est le regard des autres.
Je ne sais pas si mes personnages sont aveugles. Il y a un aveugle dans un texte assez court qui s'intitule « Aveugle, aveuglément ». Pour le reste, je n'en suis pas certain.
Yannick Hégard, il me semble qu'il a du lait. Enfin, il a le regard laitier.
Ah oui, le père, absolument, vous avez raison. Je crois qu'ils ne sont pas... C'est pas aveugles. Ils sont aveuglés.
Voilà.
Et ils sont au bord du vertige. Ils regardent. Vous savez, il ne faut pas regarder le soleil, dit-on. Ils regardent le soleil en face. C'est ça qui les aveugle.
Et vous écrivez, c'est formidable, « Parfois les yeux restent seuls dans les langes et c'est la nuit. » Pour expliquer ce handicap.
Dans un autre texte, enfin non, pardon, dans Aveugle, aveuglément, l'aveugle, parce qu'il y a un monsieur qui est aveugle, qui est le voisin d'un petit garçon, le narrateur, dans un paysage de guerre. Et l'aveugle va prévenir.
L'aveugle de voyant, finalement.
L'aveugle sent. C'est-à-dire qu'au fond, si vous voulez, certes, il y a cet handicap, mais cet handicap est pallié dans une certaine mesure par des qualités, quelque chose de sensoriel, de sensuel, d'une capacité à prévoir, à sentir monter une tension, ce qui est précisément le cas dans cette nouvelle-là.
Alors, une pause très poétique, hein. Je voudrais pas qu'on reste non plus sur des textes qui sont pesants. Par exemple, Jean-Pierre Canet, vous écrivez qu'il y a des ruelles agenouillées vers le port, que les portes cochères ont des muqueuses chaudes. On a l'impression justement quand même que le maternel, le chaud, l'accueillant est quelque chose de marquant chez vous.
Je revendique effectivement que l'écriture, enfin la mienne en tout cas, et je cherche ça, je travaille, hein, je suis infiniment laborieux, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de difficultés à écrire. Le jour où les choses seront simples, je pense que je changerai de métier, je cesserai, hein, moi je vérifie par la difficulté. Et je crois que c'est vrai que j'essaye de faire en sorte que cette écriture soit également sexuée, érotique. Je crois que c'est important. Elle n'est pas neutre. La neutralité n'existe pas. Elle n'est pas intéressante. C'est une écriture parce que là, on court avec le jeune narrateur vers la rencontre amoureuse. Et donc tout pour lui, tous les repères spatiaux, tout est indicateur de l'amour vers lequel il tend.
Et si on prend le petit, c'est le petit Joseph, 13 ans, avec sa Nina, il y a pénurie de médicaments, alors on fait venir des chiens, des ânes, pour sucer les plaies des malades. L'infirmière-chef m'autorise, alors je suce les plaies de Nina. Après, je monte sur elle, et elle jouit à grande eau, fabuleuse. Petit Joseph devient un homme. Voilà,
C'est ce que je viens de dire.
Dans un contexte terrible.
Je ne sais pas si le contexte est terrible. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que je parlais de maternité tout à l'heure, de la naissance. La langue, la nôtre, l'écrit, c'est une pâte. C'est une sorte de levain. Il faut que ce levain soit, cette terre-là soit fertile, cette glaise soit fertile. Il y a quelque chose aussi, quand je parlais de mythe tout à l'heure, que moi je cherche au travers mes modestes écrits, c'est quelque chose de j'allais dire, de la genèse, d'un recommencement de tout. Rien n'est acquis. On démarre à zéro. On ne sait pas comment est l'humanité. Elle est capable de tout.
Oui, elle est capable de tout. Peut-être le moment est-il venu de demander une lecture à Alain. C'était prévu ainsi.
Oui, alors ça, c'est les choses, le hasard des choses est heureux, puisque nous avons parlé d'autobiographie, que l'écriture n'était pas une autobiographie pour beaucoup de, en tout cas pour Jean-Pierre et pour moi non plus. Et je me suis dit, tiens, si j'ai un texte autobiographique, et je vais vous lire ce texte autobiographique-là, c'est l'un des seuls que j'ai jamais écrit. Mais vous allez voir, j'ai écrit, voilà. Tout est vrai. Mon oncle était un grand artiste. Et même si mes yeux se sont un peu usés depuis à la lumière du monde, je persiste à croire qu'il n'avait pas son pareil pour ciseler une histoire, tout à la fois crue et tendre, brute et délicate. S'il était poète, et cela sans conteste, ce n'est cependant pas son sens de l'allégorie et de la métonymie qui l'illustre le mieux. De lui, j'ai certes appris dès 8 ans que le russe ne lâchait jamais le morceau, que l'anglais était perfide, l'allemand travailleur, et que le travail c'était la santé. Mais je le soupçonne d'avoir forgé ses aphorismes à partir d'écrits antérieurs dont il omettait de me citer la source. Mon oncle parlait avec ses mains, de vraies mains d'artiste, puissantes, larges, rougeaudes, couturées de cicatrices. Je ne me lassais pas de les observer dès les premières lueurs de l'aube, dans le silence ponctué de cliquetis de son atelier. Elles opéraient avec précision, rapide, sûres d'elles-mêmes, rognant ici un addendum inutile, extirpant là la substantifique moelle d'un ensemble indigeste. Mon oncle sculptait, par évidement, de larges blocs qu'il allait chercher dans le coffre-fort où ils attendaient parfois depuis plusieurs jours qu'il les travaille, les affine, les rende aimables, tout comme le nouvelliste mûrit longtemps une histoire dans sa tête avant d'en gratter impitoyablement le gras des belles phrases et les tournures creuses. Ce coffre-fort était vaste comme une salle à manger. J'ai souvent rêvé de m'y laisser enfermer, mais l'obscurité qui devait y régner une fois la lourde porte refermée refroidissait nettement mes ardeurs à me coltiner avec la matière brute aux formes un peu inquiétantes qui en constituait le trésor. Ce n'était qu'une velléité sans volonté. Désirais-je confusément que mon oncle me travaille, m'affine, me rende aimable moi aussi ? Désirais-je ne peser qu'une plume sur son épaule portée jusqu'à la table de son atelier ? Sait-on jamais ce qui traverse l'esprit d'un enfant ? Eût-on été soi-même cet enfant ? Plus raisonnablement, je me tenais à ses côtés, heureux de lui tendre les instruments de son art, heureux de l'assommer de questions, de porter, de déplacer, de tenir, de me remplir les yeux de ses gestes. Il y avait une infinie douceur dans sa manière de toucher, de caresser, et aussi une force à laquelle rien ne résistait quand c'était nécessaire. Mais cette énergie pour manipuler une pièce qui pouvait peser plusieurs kilos, par exemple, pour la retourner en l'air tel un pizzaïolo, ne paraissait pas tant résider dans les mains qui lançaient et réceptionnaient, ni même dans les bras qui leur donnaient l'impulsion, que dans le corps tout entier. Encore qu'il n'eût du King Elvis que les côtelettes, et les siennes avaient nettement tendance à grisonner, mon oncle évoluait autour de son établi comme un chanteur de rock'n'roll sur la piste. Ses déplacements, ses déhanchements, ses gestes dessinaient dans l'atelier une chorégraphie animale, sauvage et maîtrisée à la fois. Un pas de deux qu'à 8 ans, je ne pouvais évidemment identifier comme amoureux. « C'est pour l'attendrir, me disait-il en assénant des claques sonores à la viande. » Et sous ses doigts, tout rouges, les bavettes, les tentes de tranches, les filets et les aloyaux s'alanguissaient, en effet. Débarrassés de leurs scories, nerfs ou éclats d'eau, Les morceaux prêts à être détaillés, ce serait l'affaire de ma tante en boutique, rejoignaient de fins plateaux de porcelaine blanche que je portais à la chambre froide comme le page, la couronne de son roi. Les suivaient gigots et cuisseaux, côtes et palerons, macreuses et onglets, queues, poires, merlans, mouvants, araignées, baronnes et cent autres pièces plus délectables à mes yeux. Du rose très pâle au brun roux jusqu'au noir du boudin, toute la palette des couleurs chaudes envahissait la boucherie. Si je n'avais montré en toutes circonstances le sérieux d'un pape et l'application d'un apprenti avant l'heure, j'aurais sans doute rêvé de m'enfoncer dans cet amoncellement de chair, de m'y lever, d'y plonger les bras et d'y retrouver quelque chose de la chaleur d'un ventre perdu. Jamais plus je n'ai assisté à un spectacle aussi troublant que la mise à nu en quelques minutes d'un os long, au dépouillement tout en courbe d'une anatomie. Dans ces gestes-là, mon oncle devenait dessinateur, caricaturiste, croquant très rapide un portrait indiscret jusqu'à l'impudeur. Peut-être le tondeur de brebis a-t-il même science des corps, mais l'os nettoyé est infiniment plus nu qu'une peau, fût-elle glabre. Le tondeur se contente de copier fidèlement, au plus près, une forme. Il décalque. Le boucher la révèle, la crée. S'il avait pour le veau, délicat et cher, l'attention d'un père, pour le porc, la sévérité joueuse du maître avec son compagnon canin, et pour le bœuf, la considération et le respect d'un égal, je ne me souviens pas que mon oncle ait jamais fréquenté les poulets, ni les poulettes, coqs, ni chapons, ni rien de ce qui constitue une basse-cour. Sans doute en ces temps-là, y avait-il encore un volailler dans la petite ville. Les viandes blanches eussent été incongrues dans son palais rouge, dont il réglait du jardin de la chambre froide à la cour de la boutique, en passant par la Seine, pour moi seul éclairé, les entrées et les sorties. Encore n'étais-je pas simple spectateur, ébloui et abusé. Petit homme à tout faire, j'étais dans le secret des dieux. J'enclenchais des machineries tranchantes, je transportais des seaux, ouvrais les portes des fours, mettais d'une branche de persil la touche finale à la pourpre d'un costume. Mais le plus extraordinaire restait à venir. Car si la boucherie était l'art du nouvelliste, la charcuterie était celui du poète. Là, les viandes étaient d'abord détaillées, voire hachées jusqu'aux mots, point de départ de toute création. La suite était une savante composition, harmonie de saveurs autant que de couleurs, de force et de douceur, parfums mêlés qu'une cuisson ou une fumaison parfois exhaussait. Il s'agissait certes de poésie classique. L'époque n'avait pas encore inventé les formes libres qui aujourd'hui étonnent, ravissent ou déconcertent l'amateur. La saucisse, le boudin, le salami ou la rosette étaient tous contenus dans le cylindre parfait d'un boyau. Si la lyonnaise s'enroulait, c'était à la manière d'un virelet, une convention ancestrale. Mais c'est le cylindre droit qui s'imposait presque toujours, véritable sonnet charcutier. Et si la mortadelle osait le verre de 18 pieds, quand le gendarme se contentait de l'hexamètre, le diamètre du saucisson à l'ail en était l'alexandrin. J'étais fasciné par l'art d'enfourner les mots dans ce cadre inéluctable, qu'aucune exception ne venait boursoufler. Encore le tube translucide que j'avais parfois l'insigne privilège de fixer à la machine créatrice était-il aussi long que l'inspiration ? Avant que mon oncle, avec un sens très sûr, ne le divise en tronçons d'environ 14 vers d'une rapide pirouette qui me faisait rire aux éclats. Les viennoises croquantes étaient d'amusantes épigrammes. Le boudin m'inspirait des pensées licencieuses. La lyonnaise avait l'admirable fadeur des élégies. La mortadelle, ce côté barbant de la poésie didactique. Le salami, aux couleurs trop tendres, avait la candeur d'un Lamartine. La saucisse à cuire, les lueurs sombres de Baudelaire. Quant aux terrines et aux pâtés, qui certes s'affranchissaient du boyau, mais pour se fondre dans un moule plus rigide encore, c'était autant de légendes des siècles, poèmes épiques qui mûrissaient et gonflaient lentement au four du temps. J'ai beaucoup lu chez mon oncle. je m'y suis pénétré de la chair des mots. J'y ai appris la patience et la rigueur d'écrire. Mon oncle était artiste. Il ne l'a jamais su.
Merci Alain Quévez. Le beau est toujours bizarre. Baudelaire.
On trouve voilà, les livres sont partout.
Ça m'a fait penser aussi à La Poissaille, très très belle nouvelle.
Il y a effectivement beaucoup de résonance avec le recueil de Jean-Pierre. Je m'en rendais compte en le lisant. Mais bon, voilà.
On va marquer une dernière pause musicale parce qu'ensuite viendra le moment de nous quitter et de laisser surtout la parole à notre ami libraire pour son coup de cœur. Dernière pause musicale, c'est Mélissa Nkonda et ses Nouveaux Horizons. Ben, les Nouveaux Horizons, il y en a plein qui s'offrent à la maison d'édition Rhubarbe qui fêtera au mois de décembre ses 10 ans. Nous sommes ce soir donc à la librairie L'Autre Monde en public. Vous l'avez bien entendu à travers ces applaudissements nourris qui ont suivi la lecture que nous a proposée Alain Quévez. Nous sommes en compagnie donc d'Alain Quévez et de Jean-Pierre Canet. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Ce sera pas long, transporte-toi vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux horizons, entouré de vers de nouveaux horizons, entouré de afin de fuir les problèmes. C'est ici qu'on nous mène près de paysages de plaine. On récolte ce que l'on sème tout là-haut. Toucher les ailes, les oiseaux, c'est valable pour un monde meilleur. Ce sera bien plus beau là tout là-haut. Près des cieux du soleil, lève-les yeux au ciel, tu verras monts et merveilles. Go away from me.
Bientôt à sa fin. Alors, bien sûr, on ne peut que vous encourager à découvrir le catalogue des éditions Rhubarbe qui fête leurs 10 ans. Donc, Alain, on va sur le site internet, hein, www.rhubarbe.com.
Oui, on peut aussi aller dans une librairie.
Tout à fait.
Où on peut voir les livres en vrai. Mais sinon, sur le site internet, oui, tout à fait.
Les toucher, les humer. Et puis, Alain Quévez, on le rappelle, est l'auteur donc, du Geste manqué de l'amant, recueil aux nouvelles qui lui a valu le prix Prométhée de la nouvelle en 1997, comme diraient nos voisins et amis suisses. C'est aux éditions du Rocher. Il y a Ce n'est pas mon visage, c'est aux éditions Le bruit des autres. C'est plus récent, je crois que ça date de 2011.
C'est le dernier recueil paru, oui. Le Bruit des Autres, qui est un grand éditeur de théâtre aussi.
Et puis, bien sûr, on ne saurait trop vous encourager à lire Le Grand Labeur, le prix Bocas qu'a obtenu Jean-Pierre Canet, vézelien, pour Le Grand... Non, pas parce qu'il ne l'a pas obtenu parce qu'il était vézelien, il l'a obtenu pour ses nouvelles. Hein. Attention, Vézelien ne sauve pas de tout quand même. Hein. C'est Le Grand Labeur, c'est de Jean-Pierre Canet, que je salue et remercie d'avoir été devant le micro de Wagon Livre ce soir. Coucou Evelyne, alors, le coup de cœur de la semaine.
Ce soir, ce sera Joseph de Marie-Hélène Lafon, qui vient de paraître aux éditions Buchet-Chastel, qui est un roman très court, très fin, qui est en quelque sorte le deuxième volet d'un diptyque qui commençait avec Les Pays, où elle racontait le départ à la ville d'une jeune provinciale, qui vient de sortir en folio, là vous le retrouverez sur les tables. Et dans celui-ci, Joseph, elle raconte celui qui est resté à la campagne, qui n'a pas forcément choisi, hein, qui est resté parce que c'était plus pratique comme ça, parce qu'il ne voulait pas laisser la mère seule, parce que le frère étant parti, lui, il s'est dit « bon, ben, je vais rester ». Et c'est tous les sacrifices qu'on fait quand on reste et qu'on n'a pas choisi. C'est la vie privée qui disparaît, c'est ce métier qui est pas valorisé, pas valorisant, bien qu'il ait des talents. C'est un roman très très court qui aborde tous les thèmes du roman, régionaliste, hein, puisque ça pourrait être un roman cantalou, et en même temps c'est beaucoup beaucoup plus que ça.
Merci, voilà. Merci Evelyne. Tu rappelles le titre et l'auteur et la maison d'édition?
Joseph Marie-Hélène Lafon, qui sera des nôtres le 28 novembre d'ailleurs. Voilà.
À la librairie L'Autre Monde, formidable. Donc on rappelle, les apéros de L'Autre Monde, c'est généralement le vendredi soir, 18h30 au 42 Grande Rue à Avallon. Le 24 octobre, Serge Moncomble sera à la librairie L'Autre Monde pour Les Forteresses de l'Oubli, ouvrage disponible aux éditions du Murmure, une maison d'édition bourguignonne. Les 25 et 26 octobre, c'est la fête du livre de Saulieu avec comme invité d'honneur Daniel Thierry, qui a eu le prix Quai des Orfèvres 2013 pour Des clous dans le cœur aux éditions Fayard. C'est un polar. Vous savez que Daniel Thierry est né en Côte d'Or et qu'elle est une des premières femmes à être devenue commissaire de police. Et puis, voilà, moi j'ai donné l'essentiel. D'autres dates, Evelyne, peut-être, début novembre
31 octobre.
Oui.
Pierre-Emmanuel Weck, l'expo photo qui aura lieu au Cave de la Halle.
À Avallon,
pour l'anniversaire de la chute du mur, voilà, puisque ça parle de Berlin. Le 7 novembre, Patrick Dubost, en partenariat avec le festival Samedi Poésie Dimanche aussi, qui sera à la librairie pour une lecture performance. Le 8 novembre, Bernadette Courtois, pour son dernier roman. Qui d'autre? 14 novembre, Lydie Salvert. 21 novembre, Julia Deck. J'ai parlé de Marie-Hélène Lafon. Et ensuite, Olivier Truc, début décembre. Voilà.
Merci beaucoup, Evelyne. Merci à Alain Kévès. Merci à Jean-Pierre Canet. Prochain, et merci au public, bien sûr. Oui, vous pouvez. Oui. Un public hautement participatif avant de nous séparer. Prochain rendez-vous de Wagon Livre, mercredi 29 octobre à 21h. On diffusera des extraits de la table ronde qui avait eu lieu à la Maison Jules Roy dans le cadre des premiers rendez-vous du Lire et de l'Écrire. C'était le 7 septembre dernier. Une table ronde que j'étais chargé d'animer et on nous avait confié, mon cher Alain, un thème digne de l'agrégation, l'écrivain face à l'histoire. Et à cette table ronde participait Pascal Rose, qui a obtenu le Goncourt en 96, pardon. Pascal Faudrier, auteur de ce roman fresque Les Rouges que l'on a pu entendre dans Wagon Livre, et le philosophe, germaniste, critique littéraire Jean Lacoste, qui est l'éditeur du journal de Vézelay de Romain Rolland. C'est mercredi prochain, toujours à 21h sur Radion 90.5 ou alors en direct via internet sur le www.radion.fr. Absolument. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir.